et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Dans la deuxième partie, nous recevrons Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et secrétaire national aux solidarités du PS pour évoquer la colère des profs face aux violences à l'école. Mais tout de suite, nous recevons Joachim Sonforget. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député des Français de l'étranger, de la République En Marche, et vous êtes candidat à la tête du mouvement pour remplacer Christophe Castaner. Alors avant de vous interroger, nous allons vous écouter, mais pas comme on pourrait le penser. Ça réjouit les oreilles mélomanes de Frédéric Rivière. C'est vous qui jouez les ombres errantes de François Couperin. Alors, vous êtes un vrai couteau suisse. Vous êtes claveliniste, on vient de l'entendre. Vous êtes karatéka. Vous êtes docteur en médecine, diplômé en sciences cognitives à Normalsup. Vous avez 35 ans et vous avez eu cette vie comme les chats, chercheur, radiologue, humanitaire, et vous atterrissez à La République En Marche. Mais pourquoi la politique vous intéresse quand on a fait tout ça dans sa vie?
Eh bien, parce que ça procède de la même curiosité. Je suis pas quelqu'un qui aime être un dilettante quand toutes ces choses, je les ai fait souvent de manière séquentielle. Et j'y reviens parfois pour celles que je souhaite entretenir, mais c'est toujours avec une curiosité sur l'homme, sur les sociétés humaines, sur comment tout ça fonctionne et comment ça pourrait éventuellement fonctionner mieux. Donc c'est avec cet idéal peut-être un peu naïf où j'ai voulu faire la politique.
Est-ce que la politique, c'est là, dans le fond, que réside le vrai pouvoir?
Non, mais c'est un espace important. Il est fait d'autant de perversité que dont les hommes sont capables. Mais il est aussi fait de plein de bonnes choses et de bonne volonté. Et ça, vraiment, à nouveau, ça peut avoir l'air d'un propos naïf, mais j'y crois. Et je crois qu'on peut faire des choses meilleures et que c'est là qu'on peut améliorer le quotidien des gens. C'est pour ça que j'aime les sujets internationaux. On a l'occasion de pouvoir gêner. Moi, comme médecin, je peux soigner les patients un par un, mais c'est frustrant parce que avec l'action politique, vous pouvez avoir la chance de faire quelque chose pour le plus grand nombre, et c'est un idéal qui me plaît. Mmh.
Pour rester un instant sur la musique, d'abord c'est très agréable d'en parler en effet avec un invité politique, on a souvent l'occasion. Cet extrait qu'on vient d'entendre est d'une très grande délicatesse en effet, d'une très grande beauté. Alors il se dit que Emmanuel Macron est lui-même un mélomane très averti, un pianiste amateur certes, par définition, parce que président de la République, c'est difficile d'avoir une carrière de concertiste en même temps. Mais vous avez déjà pu en parler avec lui? Vous avez pu échanger à propos de musique?
Je crois que quand je l'embête, j'embête toujours pour des choses très, trop sérieuses relatives à la politique. Donc, mais je m'aperçois que je n'ai pas...
Peut-être c'est une porte d'entrée, alors, vers Emmanuel Macron.
Je m'aperçois que j'ai jamais pris le temps de parler de musique avec lui. Je sais qu'il aime le piano, qu'il aime la musique. J'ai cru comprendre qu'il aimait plutôt la musique romantique. Je m'avais souvenir à l'avoir entendu dire qu'il aimait Schumann, qu'il aimait Bach aussi. Ça nous fait un point commun, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt vers la musique baroque, c'est la musique baroque qui fait vivre mon imaginaire, et ce sont les lumières du 18e qui viennent avec, et ça génère chez moi, disons, une certaine rêverie, des idées pour l'action politique aussi. Ouais.
Est-ce que dans le milieu politique, vous avez l'impression de baigner dans un univers où la culture, où la sensibilité, où la délicatesse sont de mise?
Elle manque souvent, et peut-être les gens n'ont pas le temps, pris dans un certain engrenage. Mais je crois que ce n'est pas démodé. Je trouvais ça un peu vieux jeu. Je dis toujours que c'est un peu vieux jeu quand je fais ces déclamations en faveur de l'humanisme des Lumières. Mais le psychologue Steven Pinker, comme grand inspirateur de Bill Gates, de Trudeau, d'Obama, que je reçois dans quelques jours à l'Assemblée nationale pour une conférence et pour un dîner, vend ça dans son dernier livre, l'idée de, ça s'appelle Enlightenment Now. Donc il vend l'idée que ce qu'on a trouvé de mieux jusqu'à maintenant, ce sont les lumières, c'est cette façon de pouvoir argumenter, discuter, d'enrichir avec de la culture, qu'elle soit visuelle, auditive, toucher, la danse, que vous voulez, mais c'est nécessaire parce que sinon, on fait ça pourquoi ?
Est-ce que la politique peut être un humanisme ? Vous parliez de la du milieu de perversité.
Un sujet de bac, ça.
Mais vraiment, je crois que moi, j'ai vécu avec cet imaginaire de certains grands compositeurs, comme Froberger, un compositeur allemand du XVIIe, qui était à la fois diplomate, il passait des missives, donc il était certainement un peu agent secret, à la cour de Ferdinand III, puis Ferdinand IV. Il faisait, en même temps, il composait. Souvent, ces gens, il y a d'autres profils, pareil, qui sont à la fois astronomes, avocats, médecins. Pourquoi pas ? Alors aujourd'hui, la science est trop complète pour faire tout en même temps, mais il faut se forcer à le faire. Et le fait politique n'est pas, ne doit pas être traité à part. Sinon, vous avez des gens qui sont des dirigeants, mais qui sont dénués de cette part d'âme qui doit être nécessaire parce que à un moment donné, il faut cette empathie, il faut cette part d'âme. Sinon, vous prenez des décisions trop techniques, trop inhumaines, et vous voyez ce qui se passe dans le monde. C'est la normalisation de l'horreur, comme le dit un de mes amis humanitaires en Syrie, et ça nous mène à des décisions qui ne prennent pas en compte le fait humain. On fait des comptes d'apothicaire, plus de morts d'un côté, moins de morts de l'autre. J'exagère un peu, mais vraiment, c'est cette part d'âme qui manque dans les décideurs d'aujourd'hui. Et si on retrouve, si on renoue avec cette empathie et cette idée des Lumières, je crois qu'il y a de l'espoir, et c'est pour ça que la voix de la France peut encore exister.
Alors, on en parlera peut-être si vous voulez parler de politique étrangère, mais vous êtes issu de la société civile, vous n'êtes pas un politicien stricto sensu. Est-ce que vous avez envie de devenir un politicien, ou est-ce que c'est qu'une étape dans votre vie ?
J'ai répondu pendant ma campagne en disant que je jouerai aux députés pendant une mandature. Je ne joue pas, je travaille vraiment. Ouais. Je jouerai aux députés pendant une mandature, peut-être deux, mais l'idée de l'action en politique, on ne la perd jamais, parce que ça pourrait être égoïste aussi de faire mes concerts de clavecin pour mon propre plaisir. Il y a ce côté addictif hein, chez quelqu'un qui interprète à sa propre musique. Attention à ne pas se renfermer. Donc non, je pense qu'il faut au contraire rester ouvert. Donc tout est un peu politique. Moi, je suis venu à la politique plutôt parce que j'avais envie d'aider des populations. Je l'ai fait avec le Kosovo, je l'ai fait ensuite avec la Syrie. Je m'intéresse à d'autres pays en Afrique, en Asie. Il y a un dénominateur commun, c'est le fait de pouvoir venir en aide à des populations. Mais pour ça, il faut être au contact d'elles, ressentir les besoins, les manques, les frustrations, et à partir de là, on dresse ce constat. C'est un peu comme la Grande Marche. Excusez-moi de faire un peu d'auto-promotion, mais on fait ce constat, et ensuite on peut travailler, proposer des choses. Donc il faut à la fois cette sensibilité, mais aussi il faut la tête, il faut la rationalité, savoir organiser une pensée, déclencher les moyens d'action, les évaluer. Donc on est incomplet si on est tout dans le cœur, on est incomplet si on est dans tout raison, on est incomplet si on est dans tout action, tout physique. Et je crois qu'il n'y a rien de nouveau avec ça, mais ça mérite souvent d'être rappelé.
Mais alors, cette idée que vous exprimez, cette envie d'agir finalement pour le plus grand nombre, vous disiez je peux soigner un malade, mais par la politique je peux peut-être finalement apporter des solutions à de nombreux malades en même temps, sans vouloir faire de clin d'œil à la Macronie hein, avec en même temps. Mais ce souci-là que vous exprimez, souci de l'autre, empathie, part d'âme. Je vous demandais tout à l'heure si la culture vous semblait être présente dans le milieu politique, à La République En Marche, chez les députés. Est-ce que ce que vous exprimez là, vous le retrouvez chez vos collègues, ou est-ce que vous êtes une sorte d'extraterrestre ?
Mon collègue de droite, Marc Delatte, par exemple, adore la musique classique, on en parle souvent. Ouais. Il est médecin, il adore la musique. C'est pas rare d'avoir un collègue qui aime le théâtre, qui aime la danse. Et qui... Non, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, ça fait plaisir
mais
à voir.
Mais je parlais plus là, cette fois, de cette volonté d'agir et de transformer.
Ça manque dans la pensée politique. Et j'accuse aucun collègue de quelque
part. En particulier, ça, on se doute bien. Ouais.
Mais non, ça manque vraiment dans la pensée politique. C'est la raison pour laquelle, quand son éditrice m'a contacté, j'étais très content de pouvoir, pouvoir accueillir quelqu'un comme M. Pinker. Je fais cet effort-là dans le cadre de mon think tank Global Variation que je co-préside avec mon ami Christian Darnia. On fait cet effort de faire venir à la fois des artistes, des experts, souvent anonymes, inconnus, mais avec des bonnes idées, les mettre en face de personnalités publiques du monde entier pour générer ce dialogue, renouer avec cette façon de faire salon comme il y avait à l'époque. Et je souhaiterais qu'elle existe dans la vie politique.
Et alors, dites-nous pourquoi, après nous avoir exprimé tout ça, c'est vrai que c'est rare, nous sommes ravis avec Frédéric de pouvoir interroger un politique qui a d'autres dimensions aussi. Et pourquoi, dans le fond, vous êtes candidat à la République en Marche ? Pour faire quoi ?
Alors, je crois qu'il serait plus confortable pour moi, par exemple, de me dire ça se passe bien, mon mandat se passe bien, la relation avec les électeurs se passe bien, mes sujets, affaires étrangères, défense, je suis dans mon couloir, je me sens utile, je fais bon, ce serait plus simple de dire je fais ça, et puis, mais ce serait égoïste, et moi j'ai construit ce mouvement avec les autres, peut-être loin du Sénat parisien, parce qu'on était les uns en province, les uns à l'étranger, mais j'étais animateur local, tout au début, dès début avril, j'étais référent, j'ai fait ce qu'il fallait pour aider, essayer de trouver des contributeurs au mouvement, donc. Et puis après, voilà, vous savez la
suite.
Vous
faites partie des déçus ou pas, hein?
Mais non, justement.
Qui considèrent qu'il n'y a pas de démocratie interne, que
mais c'est pas
ça
juste.
Marche pas très bien.
En fait, on ne va pas se poser la question si la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide. Il faut juste demander comment on peut encore remettre de la flotte dedans, excusez-moi. c'est ça qu'il faut faire. Donc, au lieu de regarder les choses, les contempler en disant est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien, mais essayons de. Donc, moi, je trouve qu'il serait trop égoïste de ne pas m'impliquer dans la vie de ce mouvement. J'ai envie de l'aider. Bien sûr, j'ai cette fidélité au président dans la République, je l'ai rappelé plusieurs fois, et je souhaite vraiment continuer à l'aider dans cette mission de faire de la politique autrement. C'est pas toujours facile, mais faisons ce qu'on peut.
Mais est-ce que la manière dont Emmanuel Macron est président de la République, parce qu'il a transformé la fonction, est-ce que sa politique, ses réformes, et donc cette façon qu'il a d'être président de la République, correspondent à ce pourquoi vous vous êtes engagé?
Moi, je ne suis pas déçu du personnage et de l'action. Je n'ai pas la prétention d'être un intime, mais je crois comprendre sa pensée, et que c'est en même temps, ce n'est pas un en même temps de velléitaire, c'est un en même temps de croire avec les tripes, avec le cœur, à différentes dimensions de la vie politique qu'on veut parfois opposer. Et les gens que j'ai pu rencontrer, qui l'ont lui-même rencontré à différentes périodes de sa vie, font état de la même personne. Une personne qui a cette envie d'émancipation, ce goût de la liberté, et en même temps, ce sens de la responsabilité, de la solidarité. C'est pas un rôle qu'il invente. J'espère que ce n'est pas un rôle que j'invente non plus. J'y crois aussi avec le cœur. Et c'est le sens de mon action auprès de lui.
Alors justement, vous parlez de ce en même temps qui a été un slogan de conquête, mais un an et demi après, cette troisième force en quelque sorte qui a été créée, qu'on appelle le macronisme, aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu galvaudé? Le macronisme, c'est quoi? Quelle idéologie il y a derrière? Est-ce que tout ça, en réalité, ne manque pas? Est-ce que c'est pas ça qui manque à Macron, d'expliquer réellement et de comprendre aujourd'hui, idéologiquement, ce que c'est qu'être macroniste?
Mais vous faisiez quoi à la culture? Et ça pourrait nous rappeler cette citation de Churchill que je vais évidemment pas arriver à redire maintenant, mais au fond, si on enlève la culture pour qu'on se batte, etc. Mais vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que le macronisme, c'est peut-être juste l'idée qu'on cherche un idéal de vie meilleur pour nos concitoyens, et que cette pensée politique-là, elle doit voir plus loin que des petits ajustements et de vouloir placer ça sur une réglette qui irait de gauche à droite. Donc, je pense que toutes les recettes sont bonnes à prendre tant qu'elles ne mènent pas vers l'extrême, vers le rejet de l'autre, tant qu'elles ne mènent pas vers des situations qui finalement vont engendrer de nouveaux clivages. Donc, je dirais que toutes les recettes sont bonnes à prendre tant qu'on part de ce corpus idéologique et profondément humain. Et ça, forcément, c'est toujours à réinventer. Parce que la vie change, parce que le pays change, parce qu'il faut inventer de nouvelles recettes qui n'étaient pas forcément prévues sur un programme politique au départ. Mais sans cela, où je pense qu'il n'y a pas de vraie rupture politique. La vraie rupture, ce serait d'affirmer haut et fort que ce pour quoi on se bat, ces valeurs démocratie. Enfin, c'est pas une vraie rupture, c'est juste de dire nos principes. Et quand on dit progressisme versus populisme, c'est pas vraiment versus populisme, je crois que c'est
nationalisme.
Ça me semble plus adapté, par exemple. Mais c'est l'idée du progrès, c'est l'idée de regarder devant soi, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de toujours s'améliorer.
Ça n'est pas particulier à Emmanuel Macron. Tous les présidents de la République sont arrivés au pouvoir en disant je vais essayer d'améliorer le sort de mes concitoyens. Il y a rien de révolutionnaire dans cette proposition, tout de même, ça vous en êtes conscient.
Non, mais par contre, ce qui est assez nouveau et révolutionnaire, je trouve, c'est l'idée d'associer la liberté et la solidarité. Enfin, vous vous rappelez de la démonstration devant les enfants en salle de classe. Je me suis toujours rappelé, c'est de dire la liberté, c'est peut-être une valeur auquel les gens de droite croient plus. L'égalité, c'est plutôt une valeur auquel les gens de gauche croient plus. Et ce qui lie le tout, c'est la fraternité. Bon, c'est vraiment quelque chose de beau, parce que je pense que vraiment il y a ça. Vous avez des Français qui sont des fois paradoxaux. Hein. Ils ont envie d'une certaine égalité de traitement, en même temps ils ont envie d'émancipation. Bon, eh bien, il faut réunir ce qui est épars. Et là, je crois qu'il y a pas, il y a rien de. Ça a pas l'air extraordinaire, mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux jusqu'à maintenant, et c'est vachement mieux que le totalitarisme.
Alors tout à l'heure, vous citiez Churchill. Il disait une chose aussi quand vous traversez l'enfer, keep going, continuez à y aller. Est-ce que Emmanuel Macron, qui a traversé un petit enfer, la baisse dans les sondages, il est, on va dire, assez. Pas décrédibilisé, puisque dans le fond, il lui reste un atout, c'est que c'est l'homme qui continue à pouvoir réformer ou transformer la France comme il le dit. Mais est-ce qu'il y a des changements à faire, des réglages à faire? Ou faut qu'il reste comme il est?
On a vu des tentatives de différents partis d'utiliser un comportement déviant sur le moment. De quelqu'un de l'entourage. C'est déjà difficile de s'occuper de soi-même. On peut pas non plus être responsable des actions de tout un chacun autour de soi, malheureusement. Alors, moi, je veux bien, mais si on veut voir l'intérêt collectif, le but, c'est pas de détruire un système à tout prix pour prendre la place. Enfin, c'est un peu infantile. Moi, ce que je pense, que c'est quelqu'un qui écoute, qui... J'ai eu l'occasion.
On lui fait le reproche inverse.
J'ai eu l'occasion de voir travailler, de voir la méthode. C'était public sur la question de l'Aquarius, sur laquelle nous avions travaillé ensemble cet été. J'ai vu quelqu'un qui écoutait, qui prenait la température, qui lisait lui-même, qui allait regarder ce qui se passait, mais pas comme quelqu'un isolé dans une tour d'ivoire, loin, loin, loin de là. Donc, moi, je veux le redire haut et fort, et c'est pas juste un message de soutien pour dire le président est parfait, c'est pas ça. Il y a un président qui continue d'être à l'écoute, malgré ce qui peut se dire. Et puis, s'il peut être un peu direct parfois, écoutez, ça fait aussi parfois, on est tous comme ça, on a tous des moments où on a envie d'être direct, d'être
bousculé,
front du collier, bousculer les idées, des choses dormantes. Et puis, il y a des moments pour tout. Heureusement, je dirais que, si vous cherchez des imperfections, c'est peut-être ce critère d'humanité en fait qui correspond à cette imperfection que vous voulez voir. Le président, ça ne doit pas être un homme parfait, sinon ce serait un robot. Vous voulez pas des robots à la place. On parle toujours de cette IA qui remplacera l'homme, ces fantasmes là. Ben alors non, on veut des hommes qui soient capables de se remettre en question. Mais je crois que le président de la République sait se remettre en question, et c'est pour ça qu'on avance.
Je vais vous poser une petite question d'actualité. On en parle beaucoup depuis quelques jours. Ce jeune homme qui a menacé sa professeure avec une arme, dont on a su après qu'elle était factice, dans un lycée de Créteil. Ça a été publié sur les réseaux sociaux. Il y a un comparse qui vient faire des doigts d'honneur à l'image. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en posant à Saint-Martin aux Antilles, en posant pour un selfie, avec un repris de justice, qui fait lui-même un doigt d'honneur devant le photographe, aux côtés d'Emmanuel Macron, et en expliquant après qu'il assumait, parce qu'il aime tous les enfants de la République, quelle que soit leur bêtise. Est-ce que le président de la République, à ce moment-là, ne banalise pas ce type de comportement finalement très grave?
Bon, je crois que franchement, à nouveau, il est plutôt bon pour le président de la République de dire qu'il chérit tous les enfants de la République. Ça, c'est une chose. Après,
mais il ne faut pas que la bonté confine à la naïveté non plus.
Évidemment, mais ne soyons pas non. Nous vivons dans un monde qui est fait de beaucoup de perceptions, de beaucoup de communication, et avec une certaine tendance à surinterpréter tous faits et gestes dans le monde politique. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage, parce que finalement, on fait des liens de cause à effet entre deux choses décorrélées. Ça se passe pas au même endroit, ça ne se passe pas dans un même contexte, et on voudrait les associer parce que il y a une temporalité qui fait que c'est un raisonnement facile, une association d'idées
non,
facile.
Non, parce que c'est aussi une façon de dire tout cela n'est pas très grave. Ce jeune homme qui fait un doigt d'honneur aux côtés du président de la République.
Le président, il a eu beaucoup d'occasions de montrer qu'il avait une certaine fermeté sur ses valeurs au niveau de l'éducation. Il l'a dit aussi par la voix de son ministre Jean-Michel Blanquer, il y a eu cette idée du service national universel qui est venu, vous rappelez-vous, au milieu de la campagne, comme un rajout Parce qu'on a écouté, parce qu'on a pensé que c'était une idée valable. Moi-même, au début, j'ai été sceptique, parce que je me suis dit, oh là là, est-ce qu'on devrait, si on m'imposait un service, est-ce que j'aurais envie d'y aller? Puis je me suis posé la question, et j'en suis venu à la conclusion, c'était une bonne idée. Je pense même qu'il faut des idées en plus. J'ai suggéré, je le resuggère officiellement au ministre Blanquer et au président, faudrait une sorte de cérémonie d'entrée dans la citoyenneté française, vers 11-12 ans, haute organisée par les enfants, dans le temps scolaire, pour sentir ce sentiment patriotique. Ça pourra aider à ce que des comportements éventuellement déviants surviennent de moins en moins.
Voilà, on arrive au terme de cette émission, de la première partie. Merci Joachim Sonforger, on se retrouve dans quelques secondes, Roselyne, avec notre deuxième invité, Stéphane Troussel. À tout de suite.
Merci. Merci.
Et France 24 présente
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Nous recevons notre deuxième invité, Stéphane Troussel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et vous êtes secrétaire national aux solidarités au Parti Socialiste. Alors on va parler de la sortie du livre, Inch'Allah, une enquête sur les banlieues réalisée par des élèves journalistes, mais supervisée par les deux journalistes du Monde, Davet et L'Homme, qui, alors, ce livre pointe la montée de l'islamisme en Seine-Saint-Denis, y compris au sein de la police, qui sont de religion musulmane. Certains ont décrié cette enquête. Faites-vous partie de cela?
Moi, je laisse aux journalistes, bien évidemment, toute la liberté de faire les enquêtes qu'ils souhaitent faire.
Est-ce que vous reconnaissez votre département dans ce livre?
Moi, mon souci, c'est je refuse, j'en ai ras-le-bol qu'on décrive mon département et ses habitants uniquement sous cet angle-là. Et donc, qu'il y ait des dérives religieuses extrémistes, c'est indéniable, il faut les combattre, mais le meilleur moyen de les combattre, ces dérives religieuses extrémistes...
J'observe que vous alliez dire islamiste, mais vous vous êtes arrêté pour dire... religieux,
oui,
extrémiste. Pourquoi
mais,
vous avez peur de prononcer
parce que non, pas du tout. Il y a des dérives islamistes extrémistes, oui, religieuses, mais il y a d'abord, je rappelle quand même qu'il y a quelques autres phénomènes religieux et sectaires qui existent aussi dans un certain nombre de nos quartiers.
En Seine-Saint-Denis?
Oui. Bien sûr.
Lesquels?
Écoutez, regardez toutes les occupations d'un certain nombre de bâtiments, de maisons individuelles, d'un certain nombre d'églises protestantes qui ont conduit à des drames. Je pense à ce qui s'est passé il y a quelques mois, par exemple, dans la ville de Stein. Il y a un certain nombre de pratiques, d'attitudes. Mais en l'occurrence, oui, il y a des dérives religieuses, islamiques, extrémistes.
Quand vous dites des dérives, qu'est-ce que vous entendez par là?
Attendez, non, mais par ailleurs, je refuse de considérer que ces phénomènes-là seraient uniquement liés à la Seine-Saint-Denis. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que les habitants de la Seine-Saint-Denis, quand ils viennent à ma permanence hebdomadaire, parce qu'ils ont résumé d'un certain nombre de formules les demandes d'un certain nombre de mes concitoyens vis-à-vis des élus locaux. Quand les citoyens de Seine-Saint-Denis viennent le vendredi après-midi à ma permanence à la mairie de la Courneuve, qu'ils soient musulmans ou non, de quoi me parlent-ils? Ils ne me parlent pas de mosquée, de halal ou de voile. Ils me parlent de logement, de transport, d'éducation, d'emploi, de santé, de sécurité. Et donc, moi, j'en ai ras-le-bol qu'on décrive ce territoire et ses habitants uniquement sous cet angle-là. Oui, il y a des failles dans la République. Il y a la misère, il y a l'exclusion.
Elles ne sont pas nouvelles. Le sujet, c'est est-ce que ça a augmenté? Est-ce que, par exemple, vous constatez que de plus en plus de jeunes se tournent vers l'islamisme?
Mais ce que je refuse c'est qu'encore une fois, on porte un propos général sur de plus en plus de jeunes. J'ai aussi de plus en plus de jeunes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion réelle ou supposée, quelle que soit l'origine de leurs parents, qui réussissent, qui ont du talent, qui font des études, mais par contre, qui viennent se faire reléguer par Parcoursup. Donc c'est ça mon combat à moi. Donc oui, il faut combattre les dérives religieuses extrémistes.
Mais Stéphane Troussel, la question de Roselyne
est importante. Mais c'est mon boulot. Moi, les journalistes qui ont fait ce travail-là, je ne leur dénie pas le droit de le faire. Ils ont le droit. Mais ce que je n'accepte pas, encore une fois, c'est qu'on décrive mon territoire uniquement à travers un certain nombre de
séries. Je ne crois pas, d'ailleurs, pour les avoir entendus tous les deux, qu'ils réduisent la Seine-Saint-Denis au problème de l'islamisme radical.
Eux, peut-être. Mais sauf que leur témoignage, la manière dont la communication autour de cet ouvrage est réalisée fait que d'autres s'en emparent.
Je voudrais quand même vous citer ce que dit, et vous devez bien la connaître nécessairement de par vos fonctions de président du Conseil Général, on dit plus comme ça,
départemental
de Seine-Saint-Denis, donc la préfète à l'égalité des chances du département, Fadela Benrabia, qui dit, je la cite dans ce livre, quand on se lève le matin, on va faire son petit chemin pour conduire ses enfants à l'école, qu'est-ce qu'on voit ? On passe devant le kebab du coin qui est fermé, parce qu'on sait que le responsable s'est fait arrêter. Ensuite, la première boucherie halal, la deuxième boucherie halal, la troisième boucherie halal, ensuite, la librairie religieuse, et le Muslim Steel qui vend des niqabs. Qu'est-ce que ça fabrique ? Des normes, des quartiers complets sont sous la coupe du halal. Donc là, elle dénonce bien quelque chose qui gagne du terrain et qui fait qu'il y a aujourd'hui des quartiers qui sont...
Il y a une autre réalité. Qu'est-ce que la représentante de la République fait pour que dans ces quartiers, eh bien, il n'y ait pas un certain nombre d'individus qui se tournent vers ces dérives-là? Comment se fait-il que les emplois aidés aient été supprimés dans ces quartiers? Comment se fait-il que les organismes HLM qui rénovent ces habitations ont été privés d'un certain nombre de moyens par le gouvernement et donc les représentants de l'État dans ce département? Comment se fait-il qu'il y a moins de policiers en Seine-Saint-Denis que quand on passe de l'autre côté du périphérique? Comment se fait-il que dans son département jeune et populaire, il y ait moins d'enseignants que dans le centre de Paris? Comment se fait-il que, alors qu'il y a un certain nombre de violences dans les établissements scolaires, le ministre de l'Éducation nationale annonce encore 2000 postes dans le second degré supprimés l'année prochaine? Donc, j'en ai ras-le-bol que les mêmes décrivent une réalité, mais pas l'autre en même temps. Parce que la Seine-Saint-Denis, elle est la réalité de ce territoire, elle est diverse.
Mais
ce que je refuse, c'est qu'à travers un plan com bien établi, et moi je ne leur dénie pas, ils ont le droit de faire cette enquête. Mais c'est aussi mon devoir de dire que leur travail, il n'y a pas d'objectivité absolue dans le travail journalistique, vous le savez bien. Il y a un point de vue, ils ont un point de vue.
Ils disent que non, ils se sont contentés de constater des faits. Est-ce que ça n'est pas ça le problème, justement?
Mais on a forcément un point de vue. Et donc, je veux simplement qu'on décrive l'ensemble de la réalité de la Seine-Saint-Denis.
Et encore une fois, s'il y a
des dérives religieuses, elles doivent être combattues.
Donc vous n'êtes pas sûr qu'il y en ait.
Mais il y en a, il y en a. Mais elles doivent être combattues. Mais les failles dans lesquelles ces dérives religieuses sont en train de s'intégrer, eh bien, les failles de la République, elles doivent être aussi combattues. Quand il y a un rapport parlementaire, c'est pas moi qui l'ai réalisé, ce rapport parlementaire. Ce sont deux députés qui ne sont pas issus de la Seine-Saint-Denis. Un député de la majorité En Marche, un députés de l'opposition, les Républicains, qui disent très clairement que l'État, à travers ses grandes missions, éducation, police, justice, est défaillant en Seine-Saint-Denis. C'est pas moi qui le dis. Et les représentants de l'État décrivent seulement cette réalité-là, et les représentants de l'État disent que ce rapport est partiel et partiel.
Donc, si vous dites qu'il y a besoin de plus de police, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas.
Pour lutter contre ces dérives religieuses qui utilisent les failles de la République, que la République rétablisse dans ce territoire jeune et populaire les conditions de l'égalité républicaine.
On va essayer de bien comprendre, parce qu'on a compris qu'en banlieue, il se passe aussi de très belles choses, des initiatives.
Lisez
des
le beau
jeunes...
texte de votre confrère F. Cheftel, ancienne correspondante de l'AFP en Seine-Saint-Denis, qui décrit la réalité telle qu'elle est. Elle décrit ces phénomènes-là, mais elle décrit aussi tous les autres.
Alors, cela dit, il y a une autre étude qui a été faite il y a quelques mois, vous vous souvenez, c'est celle de l'Institut Montaigne, dirigée par Karim El-Karaoui, qui évoquait, là aussi, la montée en puissance des adeptes d'un islam rigoriste. Alors, je vais vous reposer la question, peut-être plus calmement, plus gentiment. Est-ce que vous voyez, vous, une évolution, notamment chez les jeunes, d'une attirance particulière de cet islam rigoriste, si vous voulez pas employer le mot islamisme?
Mais oui, ça existe. Qui vous dit le contraire?
Je ne vous demande pas si ça existe, puisqu'on le sait que ça existe. Je vous demande la proportion
je suis bien incapable de vous dire quelle est la proportion, parce que je vous rappelle qu'en dans ce pays, il n'y a pas de statistiques, pas plus religieuses qu'ethniques. Donc, Donc, franchement, sur la base de quoi je vais juger ce pourcentage ou cette évolution statistique
sur la il capacité à sentir oui, ce qui se passe comme
mais
ça.
Bien enfin,
vous connaissez votre département, vous voyez, vous entendez.
Bien évidemment que mon territoire, il a changé. Je vis à La Courneuve, moi, pas dans les beaux quartiers parisiens, d'un certain nombre de ceux qui courent les plateaux pour décrire la réalité de cette Seine-Saint-Denis. Moi, j'y vis depuis que j'y suis né.
Mais qu'est-ce que vous constatez alors?
Mais bien évidemment que mon territoire a évolué. Mais
tout en bien ou en mal?
Mais ça veut dire quoi, en bien ou en mal?
En mieux ou en moins bien?
Ou en mal? Ça veut dire quoi? Quand il y a un certain nombre de villes qui étaient des villes populaires et dans lesquelles le prix du mètre carré est aujourd'hui à 6 ou 7 000 euros le mètre carré, comme dans le centre de Paris, c'est en bien ou c'est en mal?
Comment vous expliquez que Gérard Collomb, lorsqu'il donne sa démission et qu'il fait cette passation de pouvoir avec Édouard Philippe, il dit on vivait côte à côte et maintenant on va vivre face à face
mais
dans les banlieues?
Quel aveu d'échec! Il était temps qu'il parte, ce ministre de l'Intérieur. Il était temps qu'il parte. Il est responsable public depuis au moins 40 ans, maire d'une grande ville depuis des années, ministre de l'Intérieur, et après tant de responsabilités, c'est le seul constat qu'il a à faire. Qu'a-t-il fait depuis 15 mois? Est-ce qu'il a rétabli des effectifs de police dans ce département? Est-ce qu'il... Vous savez combien il y a d'officiers de police judiciaire en Seine-Saint-Denis? 9,4%. Il y en a le double en moyenne dans le pays. Quand il y a des difficultés en matière de sécurité, il faut non seulement des effectifs de police, de terrain, de proximité pour être au contact des habitants, mais il faut aussi avoir des officiers de police judiciaire pour mener les enquêtes, aller au fond et interpeller et faire condamner. Mais qu'est-ce qu'a fait ce ministre de l'Intérieur pour rétablir cette situation?
Stéphane Troussel, on entend bien, vous l'avez dit, vous dénoncez le manque de moyens, le manque d'investissement, etc. Bon, mais lorsque, par exemple, dans ce livre, il est signalé une très forte augmentation des revendications de repas halal dans les écoles, qu'il y a, par exemple, on l'apprend, des tables pures et des tables impures, selon qu'on est musulman ou pas, laissez-moi juste terminer, et qu'il y a aussi des épidémies d'allergie au chlore chez les jeunes filles qui ne veulent pas aller au cours de natation, parce qu'elles ne veulent pas se mettre en maillot de bain. Ça, est-ce que c'est les failles du système, les failles de l'État, ou est-ce que c'est, en effet, la progression, la montée en puissance de l'islamisme radical?
Monsieur Rivière, ces demandes, quand elles existent, elles doivent être combattues.
Oui, alors moi, ça peut nous amener à un autre sujet.
Moi,
le hashtag pas de vague, vous savez, à l'école, on ne peut pas trop parler des problèmes.
Moi, je suis élu municipal à La Courneuve depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours souhaité siéger dans un conseil d'école. Vous savez, c'est le lieu où les représentants de la ville, des enseignants et des parents siègent. J'ai fait essentiellement des écoles maternelles et je suis aussi ce qui se passe dans les écoles élémentaires. Ces demandes, quand elles ont été formulées, elles n'ont pas été acceptée par la ville, et la République, elle a des règles, elle les fait respecter. Et si un certain nombre d'autorités considèrent qu'elles ne le sont pas respectées, charge à elle de le faire respecter. Je vous dis simplement que quand il y a des demandes comme celle-ci qui peuvent exister, moi, mes gamins, ils sont allés dans l'école de mon quartier, les deux écoles, l'école maternelle et élémentaire, elles sont classées réseau d'éducation prioritaire +++, eh bien, peut-être qu'il y a eu ce type de demande, eh bien, les parents d'élèves qui étaient majoritairement opposés à ce type de demande, ils ont fait en sorte que, bien évidemment, la ville apporte des réponses, mais pas celle-ci.
Quel est le mal le plus grave qui, selon vous, ronge enfin, vous ne pouvez parler que pour votre département, qui ronge votre département?
Comme les quartiers populaires du pays, les inégalités, madame. Les inégalités. Les inégalités en matière fiscale, en matière sociale, en matière de services publics de l'État. Les inégalités. Quand les habitants de la Seine-Saint-Denis...
Est-ce qu'on tout s'explique par les inégalités?
En tout cas, c'est mon facteur d'explication principal. Oui, je considère que quand il vous faut...
Chômage.
Quand il vous faut une heure et demie pour aller, ou une heure ou deux heures, pour aller de Clichy-sous-Bois au centre de Paris pour trouver un emploi, vous ne vous sentez pas particulièrement grand parisien, même si vous appartenez à la métropole du Grand Paris. Quand vous avez un nom avec une consonance un peu différente du mien, eh bien, comme par hasard, vous avez le sentiment que votre CV est moins bien traité que d'autres. Eh bien, c'est l'ensemble de ces inégalités, c'est l'ensemble de ces discriminations.
Comment on soigne ça?
Eh bien, écoutez, que la République, elle fasse respecter la loi. La République, elle proclame sur le fronton de nos écoles liberté, égalité, fraternité. Qu'elle veille à ce que les ressources, notamment de l'État, soient attribuées de manière égalitaire. Et puis surtout, encore une fois, moi je refuse qu'on décrive cette réalité-là comme étant unique. Je peux vous montrer des quartiers qui ont considérablement changé, des villes dans lesquelles d'ailleurs, des villes dans lesquelles, notamment qui bordent le périphérique, nombreux sont les journalistes à avoir choisi d'habiter et à, pour dire à quel point tous ces territoires sont en train de changer. Et donc moi, je refuse le prisme unique par lequel on veut décrire la Seine-Saint-Denis et ses habitants.
Il est beaucoup question aussi dans ce livre de la, le terme est employé tel quel, hein, de la compromission, voire de l'abdication des élus dans le département. Alors à ce sujet, deux choses. La préfète dont je parlais tout à l'heure à l'égalité des chances dit que la seule chose qui préoccupe les élus, c'est de ne surtout pas être accusé d'islamophobie ou de racisme. Et il y a cette affaire, enfin ce propos qui est rapporté, qui émane d'un responsable d'une association influente musulmane en Seine-Saint-Denis et qui dit, j'ouvre les guillemets, je soutiens le plus loyal aux élections, peu importe sa couleur politique. Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'en Seine-Saint-Denis, il y aurait des accommodements déraisonnables avec l'islamisme radical pour obtenir des voix.
De quoi parle-t-on ? Qu'il y ait des citoyens de Seine-Saint-Denis, français ou non, qui soient musulmans et qui souhaitent cesser de prier dans la rue, cesser de prier dans les caves, et les pouvoirs publics ne devraient pas s'en préoccuper ? De quoi parle-t-on ?
Vous parlez de la construction de mosquées.
De quoi parle-t-on ?
Pas sûr qu'il ne soit question que de ça.
Oui, mais on parle aussi de ça. Donc, si la question, c'est de savoir s'il faut qu'il y ait des lieux de culte dignes, décents, qui fassent, y compris, qui permettent qu'il y ait un islam modéré, respectueux des règles de la République, qui puisse se déployer dans notre pays, alors oui, je suis favorable à la construction de lieux de culte dignes et décents. Parce que ça sera d'ailleurs le meilleur moyen pour éviter que l'islam des caves, eh bien, se transforme en islam
financé,
radical.
Financé par des fonds français.
Oui, bien évidemment. Et en tout cas, il faudrait d'ailleurs avoir un certain nombre de règles. Il y avait une fondation il y a quelques années, c'était le Premier ministre Dominique de Villepin qui avait fait un certain nombre de propositions. Elles n'ont jamais été mises en œuvre. Mais en tout cas, oui, je souhaite qu'il y ait de lieux de culte décents pour permettre à nos concitoyens de confession musulmane de prier dignement. Et d'ailleurs, ça permettrait de laisser la religion à sa place, juste à la place où elle doit l'être. Et encore une fois, quand il y a des dérives religieuses, je demande simplement, de ne pas les nier, de les combattre, mais de les laisser à leur juste place. Et si, encore une fois, la République veut éviter que ces dérives religieuses ne se développent, qu'elle combatte les failles qu'elle a elle-même laissées se développer dans notre société.
Alors, vous avez bien sûr suivi cette professeure pointée avec un pistolet factice, c'est à Créteil, dans le Val-de-Marne, donc c'est pas chez vous. Un responsable d'un syndicat des personnels de direction affirme, dans le Parisien, on peut lire son interview, que l'on incite les directeurs d'établissement à mettre, dit-il, la poussière sous le tapis et ne pas faire remonter le moins possible les faits de violence. Est-ce que vous avez constaté ça ?
En tout cas, ce fait et le comportement de cet adolescent est insupportable, inacceptable, et il doit être sévèrement sanctionné. Mais là encore, comment se fait-il que avec des faits d'une telle gravité, des faits de violence aussi lourds, comment se fait-il que dans le second degré, le collège et le lycée, donc l'année prochaine, pour le budget de 2019, il y ait 2500 postes supprimés. On ne fera pas plus
de... Est-ce que c'est une question de suppression de postes ? Un gamin qui pointe un faux pistolet sur un prof, ce n'est pas une question de moyens.
Non, il doit être sanctionné, il doit avoir une sanction disciplinaire, sorti de l'établissement, condamné sur le plan judiciaire. Je n'ai aucune difficulté à dire tout ça. Mais enfin, oui, chacun le sait, le second degré, l'âge des collégiens et des lycéens, c'est un moment un peu compliqué de la vie des adolescents. Et donc, alors qu'il y a des effectifs supplémentaires... Vous savez, j'ouvre 3 collèges supplémentaires en Seine-Saint-Denis en rentrée scolaire. En moyenne, en fonction du nombre d'élèves, si c'est un collège 600 ou 700, il y a à peu près une cinquantaine de profs. J'espère que je ne me ferai pas démentir. Vous savez combien pour toute l'académie de Créteil, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne, combien de postes dans le second degré ? Second degré, collège, lycée ont été créés pour l'ensemble de l'académie en cette rentrée, 122. 122. Moi, j'alerte l'éducation nationale depuis des mois pour dire il y a un mauvais climat. Mais il y a moins de surveillants. Il y a moins de personnel de vie scolaire. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que moi, je veux simplement que il y ait des actes qui soient mis en concordance avec des paroles. Donc les discours de les coups de menton sur Yaka Faucon, c'est inacceptable, c'est insupportable, et le ministre qui dit attention, c'en est fini, très bien, mais qu'il n'ait pas des actes qui soient contradictoires avec ces paroles.
Vous avez d'ailleurs attaqué l'État
oui.
Pour rupture d'égalité républicaine. Qu'est-ce que vous espérez obtenir par cette démarche?
Simplement, on n'avait pas évoqué la situation, les relations entre l'État et les collectivités ouais. locales. Mais là encore, il y a des mots. Il y a eu les mots pour séduire pendant
c'est la campagne. C'est le manque de moyens, finalement.
Non, pas seulement. Année. Je mets, là encore, l'État face à contradiction. Il y a eu les mots du président de la République pour séduire pendant la campagne, le pacte girondin, et il y a les actes qui sont de la recentralisation et la volonté de corseter les collectivités locales. L'État nous a demandé de signer des contrats. Nos dépenses ne doivent pas évoluer de plus de 1,2. J'ai refusé de signer. Et j'ai notamment refusé de signer parce que l'État lui-même avait pourtant dit que ce 1,2 pouvait être modulé en fonction de critères démographiques ou en fonction de critères sociaux. La Seine-Saint-Denis a sa population qui augmente, ouvre des écoles, ouvre des collèges. Le critère démographique ne m'a pas été appliqué. Oui. Le revenu moyen par habitant, un des plus bas d'Île-de-France, voire de France métropolitaine, oui. Le critère social ne m'a pas été appliqué. Donc on va essayer déjà de faire appliquer la loi.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Stéphane Troussel et on se retrouve mardi prochain dans de nouvelles conditions. On aura l'occasion peut-être de
oui.
annoncer. Ce sera un tout petit peu plus tard.
Merci.